Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ta Face B, le podcast qui va nous en apprendre un peu plus sur notre invité de ce jour, Vicky. Vicky, bienvenue.
Merci pour l'invitation, je crois.
Vicky, alors tu connais le principe de ce podcast, on va démarrer par Ta Face A, donc en trentaine de secondes, tu vas pouvoir nous expliquer quelle est ta compagnie, ce que fait cette compagnie-là, et quel est ton rôle dans cette compagnie, et ensuite on basculera sur Ta Face B, on en découvrira plus sur toi.
Super. Donc, je me lance?
Oui, c'est parti.
Oui, ok, super. En fait, je m'appelle Vicky Boudreau, je suis chef de la direction et cofondatrice d'une agence de communication marketing canadienne qui s'appelle Bicom. Donc, on fait tout ce qui est relations médias, marketing d'influence, réseaux sociaux depuis déjà 16 ans. Et puis, cette année, on a lancé encore, mon associé et moi, une nouvelle compagnie qui est une startup en tech, une plateforme de marketing d'influence, mais qui est dédiée uniquement aux nano-influenceurs. Donc, les gens qui ont 10 000 abonnés et moins, la moyenne est de 2 000 abonnés. Donc, on active ces influenceurs-là, puis on les met en contact directement avec les marques, puis avec les autres agences éventuellement.
Ok, bah écoute, c'est très clair. Donc, un vrai sujet marketing d'influence sur tes deux compagnies.
Okay. Exactement, je reste dans mon champ d'expertise.
Ça marche. On va basculer sur ta phase B. Donc, on va démarrer par les sports. Quels sont aujourd'hui les sports que tu pratiques, que tu aimes regarder? Ça ressemble à quoi aujourd'hui?
C'est drôle que tu dis aime regarder parce que j'aime regarder aucun sport.
OK.
Les choses ennuyeuses, ça m'intéresse pas. Si je vais au tennis, je me fais gronder parce que je parle toujours. Si je suis invitée au hockey, même chose. Je jase avec les autres et je suis à peu près pas la game, mais par exemple, le sport pour moi, c'est hyper important. J'appelle ça mon rendez-vous avec mon département de santé mentale. C'est à mon agenda et ça bouge pas. Donc, j'adore la course à pied. Malheureusement, après une année de 1000 km, l'année dernière, mon corps de nouvelle 40. Okay. Ouais, mon corps de 40 a dit, OK, c'est peut-être un petit peu trop. Donc, maintenant, je varie la course et le pilates. Puis aussi, un nouveau gym où je vais depuis le début, depuis un an et quelques, qui s'appelle Orange Theory, qui est un concept, en fait, où j'y vais avec des amis aussi, où c'est très, très concentré, la musique est forte, on fait des intervalles avec le coach qui nous pousse dans notre zone à nous. Excellent. J'adore ça, ça passe vite, puis c'est vraiment complet, là. Donc j'adore m'entraîner là-bas également.
OK, Orange Theory, c'est ce que tu dis, c'est où dans Montréal pour situer?
Il y en a un sur la rue Laurier, près de Parc. Il y en a un autre à Ville-Mont-Royal, mais je ne vais jamais. Puis sinon, je pense que quand tu as l'abonnement, tu peux aller dans d'autres villes au besoin. Là, c'est comme une chaîne, mais c'est un concept vraiment génial, super efficace. Puis surtout très amusant.
OK, écoute, ça fait envie en tout cas. Donc, à suivre. Parfait. On va basculer maintenant sur la partie plutôt cinéma. S'il y avait un film culte que tu pourrais nous nommer, ça serait lequel?
Les Grandes Espérances, c'est un film que j'ai vu au tout début de mon adolescence avec Ethan Hawke et Gwyneth Paltrow. En fait, qui est basé sur un livre de Charles Dickens, si je ne me trompe pas. Puis ce qui m'avait beaucoup parlé à l'époque, c'est en fait le rêve. Moi, je suis une fille de pêcheur. J'ai un petit village de pêcheur sur la côte. Puis ça démarre dans cet univers-là, puis tout d'un coup la fille s'en va vivre à New York, puis mais elle revient toujours à ses premières amours un peu, puis moi je rêvais de partir, je rêvais de ça, puis c'est drôle parce que je l'ai revu comme adulte ce film-là, puis je me suis dit OK, ça va peut-être influencer un petit peu plus que ce que je croyais. Puis c'est la DOP, la photo de ce film-là, même si ça fait longtemps, est encore magnifique. Ouais. Puis le personnage principal dans le film, crée des œuvres, des peintures qui sont tellement belles. Je suis vraiment restée attachée à ce film-là. Sinon, j'écoute rarement des films. J'ai beaucoup de difficulté à rester assise 2h30.
Mais je crois que ce film-là, je l'avais vu aussi, et la bande-son m'avait aussi marqué. Il y a une belle musicalité. Je me rappelle Chris Cornell, un morceau de Chris Cornell dans la bande originale du film. Et... OK, écoute...
Oui, puis il y a cette vieille dame-là qui est un peu à l'italienne, mais qui est un peu qui frôle avec la folie, mais qui, qui aime les... Ah, c'est magnifique. Je pense que je vais le revoir bientôt.
Ah ben voilà. Et puis je pense que tu donnes envie aux auditeurs, aux auditrices de le regarder aussi, si c'est pas fait. Donc c'est bon. Beaucoup de pics sur les plateformes de streaming pour de grandes espérances bientôt. Tu n'as pas le temps d'écouter des films, est-ce que tu as le temps d'écouter des séries télé? Et si oui, c'est quoi ta série télé du moment?
Oui, moi j'ai beaucoup aimé Billions, qui est dans l'univers des fonds d'investissement, les Venture Capital Funds en Californie. Succession aussi, J'adore la trame des personnages, mais plus récemment, un peu comme tout le monde, là, mais je m'étais déjà laissée attraper la saison 1. J'étais complètement accro de White Lotus.
Ouais.
Pour la complexité des personnages, je pense. Puis on a eu des grosses discussions en trois couples d'amis parce que sur la série, sur les thèmes abordés, tout ça. Puis je pense que c'est souvent, ça met de la lumière sur des sujets où, qu'on n'ose pas trop aborder ou qui demeurent un petit peu tabous. Puis je pense que, ou surtout le fait dans la dernière saison où on parle de, tu sais, on est privilégié, on a accès au voyage, tout ça. Puis, tu sais, t'as des gens qui se déconnectent des nouvelles, qui sont pas conscients de la planète. Puis, t'as les éco-anxieux de l'autre côté qui arrivent pas à avoir de plaisir dans une journée parce qu'ils attendent juste que, que tout saute. Ça donne des bonnes discussions, disons.
C'est vrai. Non, mais c'est ça. C'est ce type de série qui va effectivement amener des discussions. Comme tu les regardes peut-être toutes seules, mais à côté de ça, tu vas pouvoir effectivement générer des discussions autour de toi. Succession, c'est sur HBO et The White Lotus aussi. Sur Crave au Canada, du coup.
Ouais, en fait, je pense qu'une des plateformes, quoique je travaille avec Disney+, et j'adore Disney+, une des plateformes que je privilégie, c'est vraiment tout le contenu HBO. Je suis très rarement déçue.
Il y a The Last of Us là qui vient de sortir aussi, qui a des très bonnes critiques. C'est l'adaptation d'un jeu vidéo et il y a des critiques qui sont superbes en fait. C'est vraiment, ça a l'air très très bon. Ok, on va passer côté musique. C'est quoi les artistes que tu aimes écouter, aimerais écouter également?
Encore une fois, je suis très, je dédie pas beaucoup de temps à la recherche de musique, à trouver des nouveaux trucs. Mon mari est beaucoup là-dessus, donc ça fait que notre ambiance à la maison, dans la voiture est gérée à ce niveau-là. Mais j'adore voir des artistes en spectacle. J'ai réfléchi à ma chanson préférée là, parce que ça faisait partie du questionnaire. J'avais pas la réponse tout de suite. Puis je me suis rappelée de Perfect Day de Lou Reed que j'écoutais à la fin des années 90. J'habitais en Italie à l'époque toute seule. Là, j'étais partie étudier là-bas. Puis encore aujourd'hui, quand je l'écoute, il y a comme un mélange de mélancolie, mais avec des grandes envolées d'espoir. Ouais. Puis je trouve ça magnifique. Ouais.
Yeah. C'est une très belle chanson. Bah, écoute, très beau choix. Je pense que ça... On va passer sur la partie lecture maintenant. Est-ce qu'il y a un livre que tu viens de terminer ou que tu es en train de lire en ce moment? Et si oui, c'est
quoi? Ah, mais ça, là, on voit où je passe mes heures parce que sur ma table de chevet, j'ai toujours 5-6 livres que je lis en même temps. Puis tout dépendant comment je me sens, je vais sauter d'une lecture à l'autre. Là, il y a Venture Deals, qui est un livre qui explique tout ce qui a trait au financement, qui est écrit par des gens d'investissement, mais qui a toujours le petit encadré de l'entrepreneur aussi qui donne son avis sur les différents sujets. Celui-là, je le lis très tôt le matin avant que tout le monde soit debout parce que ça me demande beaucoup de concentration. Donc il y a celui-là, sinon il y a The Essentialist que je viens de relire pour une seconde fois. Qui est vraiment attrait à une philosophie de réduire les engagements puis réduire la quantité de bruit dans notre vie pour pouvoir vraiment avancer sur les projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Puis là je me sentais un peu à la fin de l'automne étourdie encore, donc j'ai senti besoin d'y retourner. Sinon, j'ai fait un beau projet pour mes 40 ans. J'ai contacté 40 personnes qui m'ont marqué dans ma vie.
Excellent.
Je leur ai demandé, j'aurais écrit une petite lettre par la poste avec une enveloppe préaffranchie, puis je leur ai demandé de m'écrire c'était quoi la lecture qui, eux, les avait marqués au cours de leur vie. Puis je découvre des livres magnifiques, dont Cast, entre autres, qui explique aux États-Unis l'origine du racisme systémique et l'origine du racisme tout court, puis ça permet d'avoir une perspective quand on n'est pas racisé qui est super intéressante sur toutes les inégalités, puis comment ça peut se porter de génération en génération, qui est un concept qui est un petit peu dur à comprendre quand on vit pas ça. Donc ça a été une lecture proposée par un ami qui m'a vraiment touchée, qui m'a enragée aussi, puis j'ai aussi récemment, il y a Green Lights de Matthew McConaughey. Moi, je suis pas trop le star system aux États-Unis. Donc, je connaissais, je voyais qu'il faisait des comédies romantiques, là, puis j'étais curieuse qu'il écrive un livre. J'étais pas trop convaincue. Mais finalement, puis moi, j'écoute les livres beaucoup pendant que je cours, pendant que je fais autre chose. Ça, je suis une bonne cliente de Audible. Donc, en fait, ça, vraiment, sa vie est un parcours incroyable. La façon dont il raconte, si vous êtes familier avec l'anglais, vous pouvez l'écrire, l'écouter en anglais, c'est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment des aha moments où lui appelle ça des green lights, où il s'est dit, OK, tout d'un coup, c'est ça. Puis c'est comme un parcours atypique des gens qui rêvent loin, mais qui travaillent fort. Moi, ça m'inspire beaucoup. Puis au-delà de tout le glitz and glam, c'est quelqu'un qui a travaillé très fort pour des rôles, notamment dans celui avec Jean-Marc Vallée, là, où il avait perdu énormément de poids, pour Dallas Buyers Club.
Yes, exact.
Et non, donc c'est quelqu'un ultra intéressant. Puis c'est une lecture qui m'a fait du bien au niveau d'inspirationnel.
Ouais. Là, tu as rajouté une pile de 40 livres supplémentaires sur ta table de chevet. Et ce que tu me dis, en fait, et c'était le prochain segment, ce que tu dis, c'est que tu écoutes peu de podcasts, mais finalement, tu compenses en écoutant des livres audio, c'est ça?
Oui, j'écoute des livres audio le soir avant de dormir, en courant, en faisant du ménage, puis dans la voiture quand je suis toute seule, quand j'ai des petits trajets à faire. Là. Puis j'en rajoute un dernier, c'est Dopamine Nation.
Oui.
Qui explique tout le flot de dopamine dans le cerveau, puis la relation avec l'alcool, les dépendances, puis comment justement les réseaux sociaux puis le téléphone peut venir jouer avec ça. Puis au final, ce que j'en retiens, c'est que si on est toujours dans l'extase puis dans le high, ben on peut pas gérer la moindre douleur ou le moindre inconfort.
Ouais.
Puis c'est là où ça devient problématique. Donc puis la façon dont c'est raconté, c'est une thérapeute qui, avec la permission de ses patients, raconte des histoires. C'est hyper intéressant.
OK. Ouais. Bah écoute, je pense que là, il y a de quoi faire. Nos auditeurs vont se mettre eux-mêmes maintenant à leur tour des livres sur leur table de chevet. Donc écoute, merci pour tous ces partages. Et tu le disais tout à l'heure, on a la chance de voyager. C'est justement, si on parle un peu voyage et qu'on parle des derniers voyages que tu as pu faire, c'est lesquels que tu retiens et que tu veux partager?
En fait, la dernière fois où je suis allée en Europe, ça fait excessivement longtemps.
Ouais.
ouais. Je l'ai mentionné tantôt, j'ai étudié en Italie quand j'étais plus jeune. Je restais très près des gens chez qui j'habitais. Donc, quand je me suis mariée, je suis allée les voir tout de suite après. Puis, on est allé à Istanbul aussi. Puis, Istanbul, c'est une ville qui m'a tellement plu.
Magnifique.
Que j'ai trouvé magique. Puis, j'ai trouvé que les Turcs étaient tellement gentils. Puis, avenants. Je me sentais en sécurité, la nourriture était incroyable, puis le fait d'être de marcher dans le berceau de l'humanité, il y a quelque chose de
c'est magique, ouais.
Ah ouais, c'est vraiment
les lieux là-bas sont magiques, le fait que la ville soit aussi séparée finalement, une partie Asie, une partie Europe, on est vraiment à la croisée de beaucoup de choses, je suis d'accord.
Ouais, puis j'ai eu la chance d'aller dans un hammam qui était là depuis des centaines d'années, puis je me suis fait masser, puis c'est le matin où j'ai su que j'étais enceinte de ma plus grande en plus, donc là, fallait que je voulais pas trop que ce soit un massage. Donc là, j'ai expliqué à la dame, puis là, elle m'a pris par la main, elle m'a lavé les cheveux. Écoute, c'était, puis il y avait je n'oublierai jamais, c'était il y avait une grande pierre où nous étions couchées les femmes, puis il y avait énorme dôme en pierre au-dessus avec des trous en forme d'étoiles, puis la lumière du jour rentrait comme des rayons. Écoute, c'était, puis mon mari à ce moment-là est allé s'embrasser du côté des hommes, puis lui, là, il s'est fait fouetter. Il
n'y a pas eu la même
expérience, exact.
Mais les deux, vous en gardez un magnifique souvenir. Donc, c'est vraiment par recommandation. Istanbul, ouais.
Oui, puis le musée d'art moderne à Istanbul, il est incroyable. Ouais. Tu sais, c'est une ville ultra moderne à la fois. Ah non, puis j'adore la mer, puis l'eau, alors le Bosphore, là, on faisait des allers-retours en taxi juste pour se
prendre sur l'eau. Exact. Super, bah écoute, merci pour ce voyage. Si effectivement les éditeurs ne sont pas allés à Istanbul, on vous recommande vraiment cette destination, avec le hammam aussi également à faire. On va parler d'un moment de ta vie. Tu voulais nous parler justement d'un moment quand tu étais un peu plus jeune, qui a justement forgé ta personnalité, qui a fait aussi de toi, j'imagine, l'entrepreneur que tu es aujourd'hui.
Mais moi, j'ai, en fait, comme je te l'ai mentionné plus tôt, je viens d'un petit village de pêcheurs sur la Côte-Nord.
Ouais.
Puis mon père était entrepreneur. Il a laissé un bon emploi à la mine pour construire son premier bateau de pêche dans la cour chez nous, alors que la maison n'était pas terminée. On n'a jamais manqué de rien, mais on n'était pas dans des moyens incroyables non plus. Donc, c'est très précurseur et visionnaire de se lancer dans la pêche au crabe à ce moment-là, alors que personne mangeait de crabe. Puis, les Japonais n'étaient pas encore arrivés pour les achats, mais c'est venu assez rapidement après. Ça pour dire que moi, j'ai été habituée de voir mon père à l'usine négocier des 25 sous pour enfin comprendre que c'était 25 sous la livre sur 30 000 livres. que ça avait, je sais pas, c'est absurde pour 25 sous par an, t'sais. Puis après, ça a été mon école de commerce. Fait que moi, je me suis mis à vendre des trucs. Je vendais du papier à lettres que je fabriquais, je vendais mes anciens jouets, je traînais souvent un chariot au parc pour vendre des trucs aux autres enfants. Je les faisais payer aussi pour voir mes expositions de dessins de mode dans mon sol. Il y avait rien à voir, mais ils payaient $1. Déjà, j'avais la notion de PR de créer de l'engouement autour de mes événements. Puis j'oublierai jamais, une fois, on s'en allait dans un petit village. À ce moment-là, j'habitais à Sept-Îles, qui est une ville plus grande.
Ouais.
Je suis née à Havre-Saint-Pierre, ensuite à Sept-Îles. Puis Sept-Îles, on allait chez ma grand-mère à Sheldrake, un autre petit village à 1 heure de route. Puis là, c'était le fun parce qu'on avait le droit d'aller au dépanneur tout seul des fois. C'est tout petit, comme 200 habitants. Fait que là, je fais mon travail au parc, puis là, je ramasse $7. Mais là, moi, j'avais jamais eu $7 à moi toute seule. Puis, je l'ai pas dit à mes parents, je l'ai pas dit à ma sœur, puis j'oublierai jamais, on roulait sur l'autoroute, puis c'est qu'il y a des sapins sur la route dans ce coin-là. Puis, je regardais les sapins, puis je me disais, j'ai senti pour la première fois une espèce de feeling d'autonomie par rapport à l'argent, puis ça m'a jamais quitté. Une espèce de liberté. Tout ce que je fais aujourd'hui de mes entreprises, tout ça, c'est pas driver pour faire des sous, j'ai pas des objectifs financiers uniquement, tu sais. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qui me drive, mais je reconnais la liberté que l'autonomie financière peut offrir. Puis cette fois-là, je me disais, je vais aller au dépanneur quand je veux, je demanderai pas à personne dans l'auto, je vais acheter ce que je veux. Et là, je pensais que le 7$ était 7 000$ aussi, là, tu sais, j'allais acheter le dép.
Donc, t'as dit, salut papa, maman, je prends mon autonomie financière, je m'en vais de la maison.
Exactement. Mais non, c'est un beau souvenir quand je repense à ça, parce que ça, je trouve que ça, parce qu'après ça, je me suis mis à travailler très jeune, à 13 ans, je travaillais, j'ai toujours ramassé des sous, fait que cette relation-là avec le succès puis l'argent vient de ce désir-là d'autonomie, je pense.
Excellent, ben écoute, c'est un super moment à raconter, merci de le partager. Et bah, on a entendu que tu lisais beaucoup, on a entendu que t'as une vie, et puis même ta face A, tu le dis, t'as déjà 2 compagnies, donc ça te prend beaucoup de temps. Est-ce que t'arrives à faire d'autres choses? C'est quoi? Et si c'est le cas, quels sont tes hobbies à côté? Comment t'arrives à t'occuper ton temps à côté, si t'en as?
Une des choses que je commence à découvrir, c'est que mes enfants grandissent, puis je peux de plus en plus les intégrer à mes champs d'intérêt, comme aller au musée, où j'ai amené ma fille l'autre fois pour le travail, j'avais un vernissage. Est venue avec moi, c'était super agréable, elle s'intéresse à plein de choses. Mais j'essaie aussi de savoir l'air peut-être pas que je prends tant de temps pour moi, mais je reconnais l'importance pour réussir dans toutes ces sphères-là qu'il faut que je prenne du temps pour moi. Puis un des trucs que j'ai développé depuis le printemps dernier, c'est de me lever 1 heure avant tout le monde à la maison.
OK.
Puis de commencer avec une méditation guidée d'environ 10 minutes, ensuite d'écrire pour 15, puis après de faire une lecture, mais qui est pour moi, puis j'ai pas le droit de toucher à mon sel jusqu'à 7 heures. Puis à 7 heures, tout le monde se lève, puis j'ai déjà pris un peu d'avance dans ma journée. Puis ce moment-là, je trouve, depuis que j'ai intégré ça, ça m'apporte énormément. Je suis comme je suis plus posée, on dirait, en général. Ouais.
Intéressant, ouais. OK.
Ça m'a pris énormément de temps à intégrer la méditation. Ça faisait des années que je me disais, faudrait que je fasse ça, mais j'y arrivais comme pas. Puis là, finalement, avec une petite app.
C'est ça, ce que j'allais dire. C'est quoi l'app que tu utilises pour nos auditeurs?
En fait, c'est Chopra, qui vient de l'empire qu'a créé Deepak Chopra. Mais Deepak Chopra, ça fait des années, justement, au début des livres audio. C'était Penguin Audiobook. Je pense même pas que c'était Audible à l'époque. J'écoutais déjà certains de ses livres. Ça m'a aidé à prendre des décisions importantes.
OK.
Donc ça m'a toujours. Je sais qu'aujourd'hui, il est un peu comme c'est devenu un empire de vivre simplement, puis bâtir un empire, c'est un peu opposé là. Mais le contenu est très bien, l'app est facile à naviguer, puis c'est très varié. À chaque matin, c'est un nouveau sujet, puis c'est toujours entre 5 et 10 minutes, donc c'est très facile à intégrer là.
OK. Et pour les prochaines années, s'il y a des choses, tu parlais justement de ta fille que t'emmènes à des vernissages, c'est quoi un peu ta to-do list pour les prochaines années, les choses que t'as envie de faire?
Là, c'est sûr que moi, je suis très carriériste, puis j'ai mon travail, comme je suis entrepreneur, ça prend énormément de place. Oui. Fait que, tu sais, mon premier réflexe, ce serait de te parler de mes business, mais si je parle de moi personnellement, mais je pense que j'aimerais, je m'implique déjà un peu au niveau de... au niveau caritatif. Puis ça, ouais. C'est quelque chose que j'aimerais, entre autres, avec la Fondation Les Oitiers. La Fondation Les Oitiers, en fait, leur mission, c'est l'autonomie financière des femmes. Donc, ça me parle beaucoup parce que quand une femme est autonome financièrement, puis elle peut payer son appartement, elle peut aussi quitter un foyer où c'est pas une bonne idée qu'elle reste. Elle peut donner un exemple à ses enfants pour briser le cycle de la pauvreté. Donc, c'est vraiment une cause qui me touche à cœur. Puis j'aimerais que dans mon futur projet, j'aimerais que la composante sociale elle soit importante. Donc, je pense que c'est ce que je veux essayer de. Au lieu de travailler mes projets tous en silo, essayer de faciliter les choses en imbriquant ce que je fais avec le côté plus social, peut-être.
OK. Bah écoute, ça me paraît être une bonne liste en l'occurrence. On va finir, Vicky, avec une anecdote. Qu'est-ce que tu aurais comme anecdote à partager que pas ou peu de personnes connaissent à propos de toi?
Ah mon Dieu! je jouais de la batterie à l'école secondaire, avec mes talons hauts, c'est assez surprenant. Mais non, une anecdote qui est arrivée tout récemment, c'est que la presse, l'été dernier, m'a demandé pour faire une entrevue au niveau d'un article qui était paru il y a une dizaine d'années qui s'appelait « Why can't women still have it all? » qui faisait référence à une femme en politique qui est à Washington, qui rentrait le week-end à la maison puis qui disait que c'était impossible pour les femmes de faire tout arriver en même temps. Moi, au début, je voulais pas trop faire cette entrevue-là parce que même si on me dit « Ah, je te vois sur les réseaux sociaux, t'as l'air de tout gérer », c'est pas vrai. Des fois, je dors pas puis je pleure en boule. Ça dure jamais trop longtemps, mais ça m'arrive aussi. Donc, puis aujourd'hui, comme j'ai commencé l'entreprise il y a longtemps, quand j'avais pas d'enfant, pas d'hypothèque, pas de responsabilité grande, ben ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux me payer une femme de ménage, quelqu'un qui m'aide avec les enfants, tout ça, ce qui est vraiment pas la situation de toutes les femmes. Puis donc, j'osais comme pas prendre la parole parce que je sais que je suis vraiment privilégiée, en fait. Puis là, la journaliste m'a dit, tu sais, Vicky, on a besoin de la catégorie espoir. On a besoin d'une fille pour que ça fonctionne. Puis c'est dans un mode pour inspirer les autres. Fait que là, j'ai fait, OK. Donc, j'ai fait l'entrevue, puis quand on a... qui a bien sorti, j'étais nerveuse, j'aime pas trop me mettre... C'était quand même très personnel comme sujet, là. Ça avait pas rapport avec ma compagnie nécessairement. Puis quand l'entrevue allait sortir, ils nous ont demandé pour venir prendre des photos à la maison avec les enfants. Mais comme ma fille a 8 ans maintenant, je trouvais que c'était juste de lui demander la permission qu'elle soit prise en photo. Puis là, elle m'a dit « Oui, mais je veux savoir c'est quoi l'article.
» Ça y est.
Oui, ça y est. Elle contrôle son propre PR.
C'est ça.
Oui, exact. Fait que là, ils veulent savoir comment maman a fait pour garder le sourire tout en allant travailler, être amoureuse de papa, passer du temps avec vous, voyager pour le travail, voir ses amis, tout ça, tu sais. Puis, tu sais, faire arriver tout ça en même temps. Puis elle dit, ben maman, tu fais pas arriver tout ça en même temps. Je suis comme, OK. Elle dit, tu sais, maman, pourquoi ça marche? C'est parce que tu fais une chose à la fois. Quand t'es à Toronto, on est avec papa, on sait que tu fais d'autres choses. Quand t'es avec nous, t'es avec nous. Puis quand tu vas souper, quand tu sors avec papa tout seul, ben nous, on fait d'autres choses. Fait que on dirait que puis c'est drôle parce que j'ai jamais été dans la culpabilité de mère avec une carrière qui voyage.
Ouais.
Mais c'est comme si ma fille me disait, tu sais, maman, comment tu gères, ça va? Je vais pas te le remettre sur le nez à 14 ans en pleine crise d'adolescence. Peut-être, mais on verra.
C'est bien, non? Mais au final, elle aurait pu faire même l'interview à ta place.
Elle
aurait pu dire voilà ce que maman fait, comment elle fait. OK. Ouais. Excellent. Bah écoute, je pense qu'effectivement ta fille est prédestinée à une carrière comme la tienne, j'imagine. En tout cas, elle a failli demander à être payée, je pense, pour qu'on prenne sa photo. Sinon, elle aurait pu demander un 7$.
Peut-être, oui. Elle veut ouvrir son compte de banque, là. Ouais.
OK. Bah écoute, merci beaucoup Vicky pour cette anecdote. Et merci également pour ta participation à ce podcast Ta Face B. J'espère que nos auditeurs en auront appris plus sur toi pendant cet épisode-là. Et merci Vicky.
Ben merci à toi parce que je trouve que c'est un sujet, c'est tellement intéressant justement de voir autre chose des gens qu'on connaît pour leur carrière. Puis c'est tellement important en fait. Il n'y a pas que le boulot.
De voir l'autre face.
Exactement.
Et merci à tous nos auditeurs et nos auditrices et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Ta Face B. Bonne semaine.